Père, bonjour.
Bonjour.
Heureux de vous rencontrer parce que je suis un aficionado, comme on dit, comme beaucoup de jeunes qui remplissent vos salles. Du reste, ils sont très très nombreux. Je voudrais commencer par vous poser des questions de l'actualité musicale, si vous le voulez bien, ou de phénomènes de mode. Je voudrais savoir ce que vous pensez, comment vous vous sentez en ce début d'année 90 par rapport à une musique rock, à une musique rap, à une musique funk, qui n'est pas du tout votre genre.
C'est la musique qui ne veut rien dire, hein. Ils dansent, quoi, ça fait danser, quoi. Je crois que j'écoute pas tout, parce que malgré tout, on me fait écouter, forcément, avec les programmes qui arrivent comme ça dans votre... Je n'étais pas dans votre loge, mais dans votre tête. C'était aussi un peu ma loge. Et ça n'a rien à voir avec la musique jazz, la bonne musique. Et ça me rappelle... un journaliste qui m'avait demandé qu'est-ce que je pensais de l'Amérique. J'ai dit, moi, l'Amérique, j'aime pas ce pays. Je suis jamais allé, je suis resté. J'ai passé une nuit à New York, un jour. Moi, j'attendais un musicien qui devait venir jouer, puis il est plus venu. Le musicien était très connu, c'était un guitariste. Jimi Hendrix, oui. Et j'ai pris l'avion le lendemain. Et alors, il me dit, mais non, c'est... Je veux parler de la musique, la belle musique qu'ils font. J'ai dit, les Américains? Mais quelle musique? La musique américaine, le jazz. J'ai dit, c'est américain? J'ai dit, non, monsieur. C'est de la musique noire. Écrite ou chantée par des esclaves noirs. Et ça, c'est ignoble. Voilà.
Pour rester dans le registre de l'Amérique, mais pas longtemps, rassurez-vous. Hein. Puisque l'on parle de culture et de mode actuellement, qu'est-ce que vous pensez de la culture du vidéoclip que l'on voit sans arrêt à la télévision et que forcément vous devez voir, et des succès faramineux de gens qui ont pour nom Michael Jackson ou Madonna, par exemple?
Ah, Michael Jackson, c'est un type qui s'est fait blanchir un peu, c'est bizarre ça. Hein. Je le comprends peut-être, il avait le moyen de le faire. Quoi. Et Madonna, qui ressemble un peu... en moins bien, mais elle, je pense qu'elle tient à ressembler à Marilyn Monroe, n'est-ce pas? Et qu'est-ce que je pense de ces gens-là? Moi, vous savez, il y en a un autre qui s'appelle Prince, n'est-ce pas?
Oui.
Que j'ai vu un jour chanter, il était à la télévision, quoi. Et il s'est abaissé devant un musicien comme s'il allait lui... lucissait le cocotier, vous voyez. J'ai trouvé ça incroyable. Hein. C'est ça la musique. Et maintenant, vous disiez le rap.
Oui, le rap, qui est très à la mode. Oui.
Le rap, oui. Ça veut rien dire. C'est... La merde en musique, c'est toujours la merde. Hein. Je m'excuse d'employer ce mot-là, mais tout le monde les comprend. Alors, ça va, quoi.
Bien, si vous voulez, on va parler de la scène, parce que vous êtes un homme de scène, vous êtes un homme de chanson, vous êtes un poète, chacun le sait, et je disais tout à l'heure, à juste titre, je crois, que votre public, dans sa grande majorité, est formé de jeunes. Pourtant, j'ai l'impression que vous n'aimez pas la scène.
Non, j'ai jamais aimé la scène. C'est pour ça que je le fais le mieux possible, et que... Un jour, on m'avait demandé si j'avais le trac. J'ai dit non, moi, je ne sais pas ce que c'est que le trac. Je rentre là, comme dans ma cuisine, vous voyez, quand j'ai une cuisine. Et... Alors les gens rient, mais en définitive, c'est ça. Si, sur la scène, je suis honnête, donc il y a longtemps que je travaille sur la scène, et je le fais le mieux possible. Cela dit, j'aime pas ça, et c'est une chance pour moi, parce que je fais ce que je veux, et je n'ai pas le trac, vous voyez.
Alors vous faites ce que vous voulez, c'est vrai, vous dites également ce que vous voulez, ce qui est, à mon avis, une grande force, votre part, une grande franchise. Vous avez dit tout à l'heure que le rap, c'était de la merde. Il n'y a pas tellement longtemps, à la télévision, je vous ai entendu dire que la télévision, c'était de la merde aussi.
Oui.
Est-ce que vous avez toujours la même rage, la rage intacte depuis toujours?
Eh oui, moi j'ai toujours dit ça. Parce que, vous savez, la télévision, c'est un instrument extraordinaire. Si c'était fait sans la publicité, sans ces trucs qui demandent que... Par exemple, moi, chez moi, je prends pas la... Je suis en Italie, il n'y a pas la chaîne 1, comme en France. Cette chaîne 1, j'ai vu ça pendant 2 jours. Avec ma femme, on regarde et on voit des trucs avec des épisodes. Quoi. Et pourquoi? C'est pour que les gens retournent voir ça. Quoi. Avec la publicité, tout en... Tac, la publicité. Quoi. Ça, c'est une... C'est horrible, quoi. Hein? C'est horrible. Je comprends pas qu'on puisse... en arriver là, quoi. Vous savez, cela dit, vous savez qu'en Amérique, il y a une chaîne qui fait que la publicité. 24 heures sur 24, vous savez ça?
Non, je ne savais pas. Non.
24 heures sur 24, parce que l'Amérique est grande, on peut jouer tout le temps, quoi. Ça, je trouve ça incroyable. Et ça marche, parce que sinon, elle n'existerait plus, quoi.
Alors, admettons que la télévision soit de la merde, en tout cas, ça l'est pour vous. Pourtant, il n'y a pas tellement longtemps, je me rappelle, on a vu à la télé une émission d'Averti qui vous était entièrement consacrée, qui a été excessivement regardée par le public, qui a beaucoup plu. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé. Dans le titre de l'émission, il y avait le mot anarchie. Vous êtes un nanar, ce qui fait plaisir à beaucoup de monde. J'aimerais que vous réussissiez, s'il vous plaît, à me définir anarchie.
Vous savez, moi, je la définis pas comme comme quelqu'un qui s'appelle Larousse. Sur le petit Larousse, je dis, parce que j'avais 14 ans, et j'étais voir un mot. Vous allez vous étonner, parce que chez moi, à la maison, ni au collège des frères des écoles chrétiennes, il n'était pas question qu'on parle d'anarchie, ou qu'on vive l'anarchie. Et un jour, j'ai regardé, j'avais 14 ans, sur ce dictionnaire, j'ai regardé un mot anarchie. Il y avait tout simplement négation de toute autorité d'où qu'elle vienne. C'est ça la vie en société. Voilà. La négation de toute autorité d'où qu'elle vienne. Vous savez, l'anarchie, pour moi, c'est pas le fusil, c'est pas le tuer quelqu'un, c'est pas le coup de poing dans la tronche. L'anarchie, c'est vous passez dans la rue, vous voyez quelqu'un qui vous est sympathique, vous saluez, et lui aussi. Sinon, vous saluez pas. Mais vous vous respectez. C'est le respect de l'autre. Voilà. L'anarchie, c'est fantastique. L'anarchie. La négation de toute autorité d'où qu'elle vienne. Et quand je dis ça même aux jeunes, ils comprennent. Il n'y a pas besoin de faire un dessin pour comprendre ça, vous comprenez.
Quand on vous dit l'anarchiste que vous avez du génie, vous répondez quoi?
Quand vous écoutez beaucoup d'autres, alors vous pouvez dire j'ai du génie, quoi.
Alors définissez-moi le génie. Qui sont pour vous les génies, hormis les poètes dont on parlera tout à l'heure? Qu'est-ce que c'est le génie?
Le génie, c'est ce qui vient en dessus de la chose apprise, quoi. Voilà.
Est-ce que, d'autre part, vous vous considérez un peu comme un maudit?
Oui, sûrement. Sûrement, mais c'est normal. Vous savez, moi, je suis dans la marge, là-haut. Alors, les gens du texte, de temps en temps, ils disent, qu'est-ce qu'il fait celui-là, là-haut? Allez, qu'ils descendent un peu avec nous. Voilà.
Vous qui aimez tant les poètes, et qui vous les avez appris, est-ce que vous pensez que si Verlaine, Baudelaire, Rimbaud vivaient aujourd'hui, ils feraient du disque?
Non, je dis toujours que si Baudelaire, Verlaine et Rimbaud, qui sont les trois grands poètes du 19e, avaient des disques, s'il y avait le disque qui marchait à ce moment-là, et s'ils avaient de la voix, on ne les appellerait pas des poètes, on les appellerait des ACI, auteurs, compositeurs, interprètes. Voilà.
J'ai entendu dire quelquefois, par des jeunes, que si ces gens-là, ces grands poètes, étaient vivants aujourd'hui, ils seraient sûrement rockers. Ça vous paraît absurde?
Oui. Oh, alors, ils apporteraient le rock comme un plat de génie, quoi. Le rock serait plus le rock, serait autre chose. Non, non, c'est pas... Vous savez, le rock, c'est une façon de danser tout le temps, quoi. Vous avez vu, quand ça marche comme ça, on voit des spectacles, il y a des gens qui chantent du rock. Alors, les gens dansent. Ils lèvent la voix, ils lèvent le bras dans la salle. C'est, je sais pas moi, c'est... Pas besoin de, c'est comment dirais-je, c'est une expression violente et populaire de pouvoir se dire... Je suis pas comme les autres. Moi, je suis là, je râle, je chante.
Il vous arrive quelquefois de faire le bilan de votre vie?
Non. Vous dites que je suis vieux maintenant, c'est ça? Alors, d'accord, je suis vieux.
On n'est pas encore là.
Moi, je suis un
on
vieux qui ne fait pas le bilan, quoi. Moi, je fais pas le bilan. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse le bilan de quoi? Oh là là, vous savez, la vie, c'est tellement peu facile. Hein. Peu facile, hein. Je dois dire que, vous savez... Moi, j'ai pas été un joyeux, un heureux, hein, toute ma vie. Hein. Pendant longtemps, j'attendais que ça se trouve au coin de la rue, que je trouvais un clochard ou un chat, ou un chien qui me donnait à manger, quoi. C'est dur.
Dites-moi, dans la notion de temps, finalement, ce qui vous intéresse le plus ou ce qui est le plus intéressant, est-ce que c'est pas le moment présent, le moment que l'on vit?
C'est demain matin.
C'est demain matin.
Oui. Pour moi, c'est demain, toujours.
Est-ce que vous vous sentez, de par votre métier, ou de par vos opinions, privilégié?
Ah, moi, je suis privilégié parce que j'ai besoin de personne. J'ai pas de patron, quoi. Voilà. Vous savez, rares sont les gens qui n'ont pas de patron. Et ne pas avoir de patron, c'est dans cette société, c'est fantastique. Alors là, je suis privilégié, vraiment. Je n'ai pas cherché exprès, ça s'est venu comme ça, parce qu'il se trouve que j'étais musicien, que j'avais de la voix, que j'ai pu écrire. Mais j'aurais pu ne pas écrire bien comme il fallait. J'aurais pu ne pas avoir le sentiment de la musique. J'aurais pu ne pas avoir de voix, vous comprenez? J'ai eu la chance d'avoir tout ça. Et à partir de ce moment-là, j'ai vécu très mal au début. Oh là là, combien mal. Mais toujours, je n'ai jamais rien demandé à personne.
Tout à l'heure, vous m'avez donné votre définition de l'anarchie. Et vous m'avez dit, la chance que j'ai, c'est que je n'ai pas de patron. Qu'est-ce que vous avez enseigné à vos fils?
Et mon fils, il a compris que je ne suis pas le patron. Il en profite parce que c'est lui qui est devenu un peu le patron. Hein. Mes enfants, c'est comme ça, quoi.
Est-ce qu'il y a un fossé entre ce que vous êtes vraiment et l'image que vous donnez?
Moi, je ne sais pas que je donne l'image, je ne sais pas le fossé, j'en sais rien. Hein. Moi, je suis comme je suis et je me demande qui je suis. D'abord, je suis un type comme tout le monde. Vous savez, je passe dans la rue et quand les gens me saluent, je me demande toujours pourquoi. Hein. Je comprends vite maintenant parce que ça arrive souvent. Mais c'est comme ça, quoi.
D'une manière générale, Léo Ferré, vous avez quel rapport maintenant avec la presse et peut-être avec la critique en particulier?
Oh, avec la critique, j'ai un très mauvais rapport parce que les critiques sont des gens qui n'ont pu faire autre chose et qui font ça et qui ne sont pas contents, quoi. Ils ne sont pas contents, ils sont jaloux. Ouais. Jaloux. Je suis passé. Il y avait un type qui avait assisté, qui était un critique, premier Grand Prix de Rome, il y a quelques années, qui avait assisté à mes concerts, à un concert le premier jour, où il était invité, bien sûr, au Palais des Congrès à Paris. Et il m'avait démoli, vraiment, en me disant que je faisais une mauvaise action, vous vous rendez compte. De chanter avec l'orchestre, c'était une mauvaise action. C'était une mauvaise action de jouer avec le pianiste Daga Schatz, qui était un camarade à moi, un pianiste remarquable, de jouer le concerto pour la main gauche de Maurice Ravel. C'était une mauvaise action de jouer Coriolan de Beethoven. Et puis quant à moi, alors là, n'en parlons pas, hein. Bon, moi, chanter avec l'orchestre. Ce type qui avait dit ça, et il a une ouvreuse, quand il était sorti, c'est l'ouvreuse qui est venue me dire, il avait dit, alors comment vous trouvez? Et le type, il avait dit, oh, c'est très beau, c'est très bien, vous comprenez? C'était, comme on dit, un courageux, quoi. Hein? Bon. Et c'était l'été dernier, je suis passé en Italie, dans un journal, dans un théâtre qui s'appelle le Mercure, il y a plusieurs Mercures, du côté de pas loin de l'Italie. Et je suis rentré, puis le lendemain matin, on m'a donné le livre d'or. J'ai horreur de ces trucs, mais je ne peux pas refuser. Bon, je voulais y faire, c'est comme ça. Et la dernière page, j'ai vu ce petit, là, qui était passé, et qui était content, il a dit, un bon hôtel, etc. Et puis il avait signé Pierre Petit, premier Grand Prix de Rome, directeur de l'école de normale de musique, et puis un autre truc, je sais pas, un truc simple comme ça. Et moi j'ai ajouté quelque chose à ça. Vous savez ce que j'ai ajouté? Abonné au gaz. Voilà.
Dites-moi, Léo Ferré, quand ces journalistes dans leur même Mercure ou autres journaux écrivent, les questions paraissent abruptes comme ça, mais on va se débloquer, enfin on va se débloquer ensemble, disent de vous que vous êtes l'un ou le dernier monstre sacré de la chanson française. Je sais que ça vous emmerde, mais ça vous fait quoi en fait?
D'abord, vous savez, des monstres sacrés de la chanson française, je me mêle pas à ça, hein. Bon, je compte pas moi, hein, parce qu'on dirait que il n'y en a pas beaucoup, hein. Les monstres sacrés, il faudrait qu'il y en ait plusieurs pour en parler. Mais si vous écoutez la chanson, bon, il y a des gens qui chantent des trucs, quoi. Bon, c'est pas toujours terrible. Hein. Il y a un grand auteur de chansons qui avait tout découvert, la nouvelle façon d'écrire les chansons, hein, en 1936-37, il s'appelle Charles Trenet. Hein. Voilà, ça, c'est un grand chanteur. Hein. Il y avait aussi, il y avait deux ou trois aussi auteurs de chansons. Et puis après, bon, il y a eu Brassens qui était un auteur qui écrivait un peu comme avant, un peu, je trouve. Hein. Et puis il y a eu Brel, mais il était belge. C'est tout ce que j'ai à dire. Moi, j'ai un copain au Canada qui est un type très intelligent, qui avait été Brel. Il avait vu Brel, il avait été lui dire « Qu'est-ce que vous pensez de Léo Ferré ?» Et Brel, belge toujours, avait répondu « Chez Léon, tout est du bidon. » C'était vrai, l'histoire de Léon, parce qu'il m'appelait Léon, ce type. Il avait tourné dans un film avec un copain à moi, le fameux film sur les anarchistes, là. Et il y avait un chien qui faisait pipi, là-devant. Puis « Vive l'anarchie », il y avait, en rouge. Alors lui, il avait ajouté « Léon ». Léon, c'était moi, mais mon copain l'a fait supprimer. Voilà. Alors je ne parle pas de Brel.
On avait compris, hein. On avait compris.
Oh oui.
Je ne sais pas si vous vous rappelez, Léo Ferré, mais très sûrement, à une époque, certains vous appelaient le diable. Est-ce que vous êtes le diable ?
Le diable ?
Oui. Est-ce que vous êtes copain un tout petit peu avec Satan ?
Ah oui. Eh oui. Vous savez, en enfer, tu peux toujours cracher à la gueule de celui qui t'y a mis. Tandis que là-haut, non. Là-haut, il faut que tu fasses attention. Au paradis, il faut pas faire de blagues, il faut se dire... Ouh là là, là, si je vais avoir une histoire. Mais un enfer, qu'est-ce que vous risquez? Rien du tout, quoi.
Tout à l'heure, on parlait de temps ensemble, et vous m'avez dit, le moment le plus important, c'est demain matin.
Oui.
La postérité, qu'est-ce que vous en avez à faire?
Ah non, mais j'en ai rien à faire, mais c'est demain matin pour moi.
Oui, mais justement, quelle est votre opinion par rapport à la postérité? Est-ce que c'est important, la postérité?
Ah non, pas du tout. Pas du tout, ce serait peut-être important pour mes enfants, pour ma femme, j'en sais rien, moi. Hein? Bon, si je demeure, après... Si je deviens prospère. Non, la postérité, qu'est-ce que vous voulez faire ? C'est fait par les journaux, par les livres, et tout ça. C'est terrible, ça. C'est terrible. Vous savez, s'il n'y avait pas eu les seigneurs, et j'aime pas ces gens-là, hein, mais s'il n'y avait pas eu les seigneurs qui, avec leur argent, ont fait jouer dans des concerts et pour eux et avec eux, Beethoven et Mozart, on ne connaîtrait ni Beethoven ni Mozart à l'heure actuelle.
Vous savez, quand on pense à la postérité, moi immédiatement je pense à ces messieurs en habit vert sous une coupole qu'on appelle des immortels.
Taisez-vous, là, j'en connais quelques-uns. Hein. Oh là là, c'est terrible ça. J'en connais quelques-uns. Pourquoi? Qu'est-ce que c'est l'Académie française, quoi? Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils font là-dedans, quoi? Et vous savez, ils sont heureux, hein. Il y a un truc qui m'avait gêné. Je trouvais que Cocteau était un type intelligent. Je pensais qu'il était... c'était un type qui voulait faire du bruit un peu, comme ça, pour faire voir aux gens que le bruit existe aussi. Mais il m'avait prouvé que je me trompais. Parce que, un jour, il a été à l'Académie française. Vous savez qu'à l'Académie française... D'abord, il faut demander, il faut faire la demande. Quand vous êtes reçu, vous écrivez votre discours et vous devez le lire à 5 académiciens avant de le lire officiellement, vous le savez ça, dans la loge de l'académie, je ne sais pas comment ça s'appelle. Bon. Et alors, il avait été lire son discours à ces 5 académiciens. Et dans ce discours, il parlait du poète Jean Genet, qui était un grand poète, qu'il aimait beaucoup. Un type qui était un peu de son côté à lui, pour différentes raisons. Et les académiciens lui ont dit, oui, mais il faut enlever le nom de Jean Genet. Vous savez pas ça, non? Il faut enlever le nom, je sais pas, je l'ai lu quelque part, hein. Il faut enlever le nom de Jean Genet. Il était là à l'Académie. Alors, quand j'ai su ça, avant qu'il passe, alors carrément, avec son discours à l'Académie française, je me suis dit, voilà, ce type, il va faire un truc formidable. Il va arriver avec son habit, tout ça, son chapeau, là, comme ça. Il va arriver, hein, il va poser tout ça. Il va lire, il va se déshabiller, enlever cette veste et partir en chemise en disant aux académiciens, j'en ai rien à foutre de votre truc. Moi, je m'en vais. Et le poète Jean Genet, C'est un, d'abord un poète, c'est un ami à moi. Salut. Je pensais qu'il allait faire ça. Ça aurait été extraordinaire. Vous croyez pas? Eh non. Il avait accepté d'enlever le nom et il a fait le discours comme tous les autres. Alors Cocteau, va te faire voir chez les Grecs.
Bon, on laisse tomber les académiciens pour revenir à ceux qu'on a appelés des génies qui en sont ou qui n'en sont pas, genre Beethoven, dont vous avez parlé, ou Mozart, dont on fête l'anniversaire. Bon. Et vous m'avez dit à juste titre, hein, s'il n'y avait pas eu de musiciens après eux pour reprendre leurs œuvres, on ne les connaîtrait pas.
Non.
Moi, j'ai le sentiment que si vous n'aviez pas été là pour nous faire découvrir Baudelaire, Apollinaire, Verlaine, Rimbaud par la musique, on aurait mal connu la poésie.
Oui, là, je suis de votre avis, mais je ne l'ai pas fait exprès. Hein. Ah, ça s'est trouvé comme ça. Vous savez, moi, je ne voulais pas toucher aux poètes. Moi, j'avais 12 ans, ma maman m'a accompagné au cinéma voir un film qui s'appelait Partir, où dans ce film, il y avait un chanteur de l'opéra comique qui s'appelait Charles Panzera et qui chantait dans le film L'invitation au voyage de Baudelaire. J'ai pleuré. J'ai trouvé ça extraordinaire. J'avais 12 ans, hein. J'ai trouvé ça fantastique. Et c'est tellement vrai que la semaine d'après, ma mère m'a amené dans un magasin de musique en Italie. J'ai volé le petit truc, j'ai pas volé tant de choses dans ma vie. J'ai volé ça. Les 18 chansons mises en musique, les 18 textes, les 18 mélodies du Parc, qui n'écrivait plus, qui vivait toujours, mais qui était malade, il était infirme, il était paralysé, tout ça. Et alors, voilà, comment je dis, jamais il me serait venu à l'idée d'aller mettre de la musique sur des vers de quiconque. Ça, je vous le dis, j'avais 12 ans. Bon, quelques années après, un jour à Paris, j'étais chez moi, j'avais les Fleurs du Mal sur mon piano, et j'ai ouvert les Fleurs du Mal, à l'invitation au voyage, je me suis mis à improviser cette valse, la chanson, mon enfant, ma sœur, songe à la douceur d'aller là-bas vivre ensemble. Hein. J'ai chanté comme ça, hein. Et tout, au deuxième, ce qu'on pourrait appeler deuxième couplet, moi j'appelle ça comme ça, c'est d'ailleurs un deuxième couplet, il y avait des meubles luisants, polis par les ans, décoreraient notre chambre. Et je me suis aperçu que Du Parc avait coupé ça. Et je me suis entendu dire tout seul, j'étais seul chez moi, Léo, tu sauves les meubles. Voilà pourquoi j'ai mis les poètes en musique. Sinon, je pense que je n'y aurais pas touché.
Alors, vous avez mis les poètes en musique, et les gens aiment ça, le public aime ça, que Baudelaire, Rimbaud, Verlaine soient mis en musique par Léo Ferré, et que Léo Ferré les chante. Et pourtant, vous connaissez cette phrase de Victor Hugo, qu'on a dû vous sortir des milliers de fois.
C'est un sale type.
Alors, Victor Hugo avait dit quoi, d'abord?
Il avait dit, j'interdis aux gens de déposer de la musique le long de mes vers.
Alors, c'est un sale type.
Oui, c'est un sale type. Oui, parce qu'il en voulait un type qui s'appelait Béranger, je crois, non?
Oui.
De dire ça. C'était une prétention incroyable, et c'est ce qui donne raison, entre autres, à l'écrivain Gide, à qui on avait demandé, je ne sais pas si vous savez, à qui on avait demandé quel est le plus grand poète du 19e siècle. Il avait répondu, Victor Hugo, hélas. Voilà.
Léo Ferré, tout comme tout à l'heure, je vous ai demandé bêtement, hein, si vous pensiez être un génie et vous m'avez humblement répondu que non. Je vais vous demander une question de même type. Est-ce que vous avez le sentiment d'avoir écrit des chefs-d'œuvre?
Mais où c'est que ça veut dire? Je ne sais pas.
Bah justement, c'est la question que je vous pose.
Vous comprenez, hein? Moi, j'ai écrit des choses que j'ai aimées et que, voilà, quoi. Un génie, vous savez. Si vous pensez aux autres, alors oui, je suis un génie, hein, genre aux autres vivants, hein, parce que alors là, hein, excusez-moi, hein. Je pourrais plus écrire quoi que ce soit si je me disais, ah Léo, ce matin, tu te lèves. Tu te mets ta chemise, tu mets pas de cravate, là, ça, et tu es un génie, et tu t'assois. Mais je pourrais rien faire, vous comprenez, hein? Rien. Vous croyez qu'il y a des gens qui se disent, je suis un génie? Taisez-vous. Ah! Quelle horreur. Eh, mon vieux, c'est terrible, ça.
Tout à l'heure, vous me parliez de votre maman, en Italie, c'est une anecdote. Quel souvenir vous gardez du collège Saint-Charles, chez les frères? Où vous étiez enfant et adolescent, je crois.
Ah oui, c'est pas drôle. Je n'ai jamais connu quelqu'un qui ait fait le mur de ce collège. Vous vous rendez compte? Jamais. Moi, un jour, j'ai essayé de passer par le portail, mais on m'a empêché parce qu'on m'a vu. En face, il y avait le collège des religieuses. Ça m'intéressait un peu, quand même. C'est tout. Non, ça, c'est abominable, alors. Je trouve que c'est une prison. Que les parents ne connaissent pas, ils vous mettent pas l'arme en se disant on le met en prison, ça c'est sûr, hein. Mais allez savoir. On m'a mis là parce que j'étais au lycée, j'étais tout jeune, donc c'était en 26, et En 25, oui. Et en 24, l'année 24, j'étais au lycée, j'avais fermé les portes du tramway, vous savez. Alors les gens ne pouvaient pas sortir. Voilà. C'est pour ça qu'on m'a mis au collège chez les frères des écoles chrétiennes. C'est terrible, ça, vous savez. Terrible.
Elle a été dure, l'enfance ?
Non. Parce que moi, j'ai passé la barricade, vous savez. Je pensais beaucoup, sans savoir que je pensais, et c'est ça qui m'a sauvé.
Je ne sais pas si vous fumez toujours des Celtics. J'ai pas vu votre paquet de cigarettes.
Toujours. Je dis aux gens d'en fumer. Fumez des Celtics. Fumez des Celtics ou bien d'autres cigarettes. J'ai vu l'autre jour sur un journal important, là, qui est bien fait, en Italie, qui s'appelle La Repubblica. La République. Il y avait la photo d'un type, une 60, 50 au juste, là. Archevêque. Alors, l'archevêque, c'est le type avant le cardinal, et puis avant le pape, hein, qui disait, fumer. Celui qui fume fait un péché mortel. Vous vous rendez compte? Et personne n'a rien relevé de ça en Italie. Même pas en France, moi je l'ai dit, personne n'est ça. Vous vous rendez compte? Mais ce type, j'irai le prendre, je le mettrai dans une poche à tabac, je l'enfouirai là-dessus, puis je lui ferai passer 15 jours dans le tabac, vous comprenez cet archevêque. Mais si tu respires, tu fais un péché mortel. Dans la rue, en ville, si tu respires, tu fais un péché mortel. Et il disait ça avec, moi je l'ai entendu dire parce qu'on l'a passé à la télévision, avec un accent important, en fait. Péché mortel, sale con, hein. Ah, ça, ce sont des cons qui ont des robes, mais je préfère les femmes, hein.
Vous savez que fin mai, il y a eu une journée, justement, en France, qui était une journée sans cigarettes. On demandait aux gens de ne pas fumer.
Oui.
Bon.
Ouais, je sais pas, moi, alors. Ils n'ont qu'à arrêter tout, quoi. Hein, bon. Et le vin, ils en parlent. Et le whisky, ils en parlent. Et l'alcool blanc, bien, machin, ils en parlent. Non.
Bah, j'ai lu quelque part que lorsque vous étiez à Saint-Germain-des-Prés, il y a un bail, hein, on dira, vous fumiez vos cigarettes comme vous pouviez les acheter au début. Et puis vous êtes senti riche le jour où vous avez acheté une cartouche de cigarettes.
Voilà, c'est ça.
Oui.
Pendant longtemps, je me disais tous les soirs, ah, demain matin, il faut que j'achète mon paquet. Mon paquet Celtic. Ou mes deux paquets, j'en fumais deux à ce moment-là par jour. Ah. Et tous les soirs, je me disais, et le lendemain, je pouvais l'acheter. Hein? J'avais donc les sous pour acheter le tabac. Quoi. Et un jour, j'ai acheté une cartouche. Je suis riche. La richesse, c'est pas le fric. C'est la liberté de penser. Et de penser, d'avoir raison de penser ce qu'on pense. Voilà, c'est ça la richesse.
Léo Ferré, je me doute ô combien que vous n'aimez pas le top 50. Ni les hit parades, ni les palmarès des chansons. Mais seulement, je vais vous poser une question dans ce sens, qui concerne les poètes. Si on prend Verlaine, Rimbaud, Baudelaire, Apollinaire, Villon, lequel est le plus grand?
Je peux pas dire. Ils sont tous grands. Quand on dit que Rimbaud est le plus grand, c'est pas vrai. Rimbaud est un grand poète. Et Baudelaire, alors, il pourrait être plus grand que lui aussi. Et Verlaine aussi, c'est un... C'est un poète sensationnel, quoi. Rimbaud était un type qui a commencé très jeune et qui a fini très jeune parce qu'il a dû se vider la tête quand il est parti. Alors quand on me dit qu'il a laissé faire ça, c'est pas vrai, il pouvait plus rien faire. Il n'avait plus rien qui lui venait dans la plume. Hein. Seulement c'était un type qui devait être très intelligent, un peu méchant aussi sûrement, supérieurement méchant, je dis supérieur avec tout ce que comporte ce mot-là. Il avait écrit, vous savez qu'il avait écrit un jour à Verlaine, « Quand vous me verrez positivement manger de la merde, alors vous pourrez dire que je ne suis pas cher à nourrir. » Ah, c'est formidable.
Vous connaissez par cœur, hein, tous ces poètes. Ils vous accompagnent toujours.
Oui et non. C'est... Parce que par cœur, il faut que je les relise, hein, pour les chanter. Mais c'est fantastique. Je les écoute sur les cassettes que j'ai faites.
Beaucoup de gens me disent, qu'est-ce qu'on regrette alors qu'il n'y ait pas d'émission sur la poésie à la télé? Qu'est-ce qu'on regrette qu'il n'y ait pas davantage d'émissions sur la poésie à la radio? Et puis, ils ajoutent, heureusement qu'il y a des gens qui chantent la poésie. Parce qu'effectivement, j'ai l'impression qu'on ne prendrait pas un bouquin de poésie pour le lire d'un trait, alors qu'on prend un polar pour le lire d'un trait.
Oui, mais ça c'est normal. Vous savez, je vais vous dire une chose. N'importe qui veut... Les gens qui ont été longtemps à l'école, même à l'université... J'ai connu le dernier médecin de Paul Valéry. Je dis Paul Valéry en parenthèse parce qu'il ne m'intéresse pas ce type. Hein. Je dis, c'est pour signifier un peu ça, quand ça se passait. En Bretagne, il m'avait dit, Léo, tu m'as fait connaître Baudelaire. C'est pas vrai, il avait dû le lire. Mais vous comprenez, la musique, c'est le véhicule prédestiné. Quand il est bien trouvé, c'est pour ça que moi, quand je mets les poètes en musique, je les improvise toujours. Et si ça vient pas, je tourne la page, j'en fais une autre. Parce que je pourrais mettre 5 musiques différentes sur la même poésie, mais après, il faut que je choisisse, alors non. La poésie, la musique, c'est simple. C'est, ça vient en dessous, mais en dessous, il y a les roues, quoi. Vous comprenez? Voilà.
Tout à l'heure, on parlait de l'anarchie. On a classé le sujet, on va le reprendre en 2 minutes. J'ai lu quelque part que vous avez écrit « L'anarchie, c'est l'extrême solitude ».
Oui.
Comment vous la vivez, cette extrême solitude?
Ah ben ça, je ne peux pas vous expliquer. Vous savez, l'artiste, c'est un type seul. Hein. Seul, oui. Ça, je ne peux pas expliquer. Moi, je suis chez moi, il y a du monde, tout ça. Quand je rentre en scène, je suis seul aussi. Tout en seul, quoi. Ça fait partie de... je sais pas, moi... J'ai les yeux marrons et je suis seul. Quoi. J'ai les cheveux blancs et je suis seul.
Ni Dieu ni maître.
Ah, ni Dieu ni maître, ah oui, c'est ça. Et ça ressemble au mot de l'anarchie que je vous disais tout à l'heure, que j'avais trouvé dans le petit dictionnaire Larousse quand j'étais petit. Parce qu'il n'y avait que ça. Négation de toute autorité, d'où qu'elle vienne, point. Maintenant, allez voir dans les dictionnaires. Vous comprenez?
On va revenir à nos poètes, Léo Ferré. À Apollinaire, à Baudelaire, à
Rimbaud. Oui, Apollinaire, c'est un grand poète aussi.
Oui. Pensez-vous que s'ils avaient vécu aujourd'hui, ils auraient pu aider à changer le monde?
Non.
Non?
Comment voulez-vous qu'un poète change le monde? Voyons. Hein? Il faut qu'il aille chercher le pétrole dans le Golfe. Hein, qui s'appelle Bush. Voilà. Et il charge même pas le monde.
On a parlé vaguement d'un archevêque tout à l'heure, et vous m'avez bien rire en parlant de la cigarette qu'il ne fallait pas fumer, de peur de s'intoxiquer. Je remarque que vous toussez beaucoup depuis le début de l'interview.
Non, mais ça c'est parce que je sais pas, moi, je... Comme vous, de temps en temps, je vais tousser.
Je vais tousser pour faire plaisir. Voilà, on est d'accord. Alors, vous m'avez dit tout à l'heure que vous n'aimiez pas chanter, en fait. Et pourtant, vous avez ajouté un jour que sans cela, vous n'auriez peut-être jamais écrit un seul vers.
Non.
C'est pas vrai?
Oui.
Oui.
Si je n'avais pas pu.
Oui.
Voilà. Il se trouve que j'ai réussi à des choses qui tenaient debout un peu, et ça m'a permis ça m'a autorisé, moi, vis-à-vis de l'avenir, de l'avenir, du lendemain, tout ce que vous voulez, ça m'a permis de vivre... Et je n'aurais pas pu le faire si j'aurais pu très bien avoir un grand talent de poète. Et en même temps aussi un grand talent de musicien, que ça marche. Et la voix. Si j'ai pas la voix, qu'est-ce que je fais? Que dalle, alors j'écris pas. Voilà.
Tout le monde sait, Léo Ferré, que vous vivez en Toscane.
Oui.
Qu'est-ce que vous pensez de la Toscane et des Italiens?
Ça va, c'est bien.
Ça va?
Je suis là-bas parce que j'étais là-bas, parce que j'ai mes enfants... que j'ai eu là-bas, ils sont à l'école là-bas, ils parlent italien là-bas, très bien, tellement que des fois je ne les comprends pas, je me mets en colère. Et voilà, c'est tout, je voulais partir un moment, mais où aller? Je sais pas, j'aurais été facilement vivre, j'aurais dû le faire au début, j'aurais été vivre facilement et avec plaisir en Irlande. C'est un pays merveilleux. Pas celle d'en haut des protestants, non, celle d'en bas.
Vous vous rappelez les mots que vous avez eus pour l'Académie française tout à l'heure?
Oui.
On les retiendra. Les mots que vous avez eus pour l'Église, on les retiendra également. Les mots que vous avez eus pour l'Amérique, pour la guerre, pour le pétrole. On n'est pas très très mal à l'aise quand on vit dans un monde, quand on est cerné comme ça par des institutions, par des multinationales, par des superpuissances.
Oui, je crois, moi, on dit comme moi, mais la plupart des gens se laissent faire et finissent par être contents de vivre dans ce monde. Mais oui, c'est terrible ça. C'est terrible. Et puis, des fois, il y a des événements qui... Je me demande comment les gens font pour prendre ça. Ça doit être extraordinaire. Hier soir, j'ai vu à la télévision un type qui sa femme 20 ans, lui 23 ans, qui gagnait 3 000 francs par mois, quoi. Ils ont fait Ils ont gagné au loto 5 milliards anciens. Quoi. Ce qui, immédiatement, en les plaçant, leur rapportera 1 200 000 centimes par jour. Vous vous rendez compte? Alors je me dis, comment ces gens-là vont réagir? Qu'est-ce qui va leur arriver? C'est terrible, ça. On ne peut pas savoir. Hein. Et c'est merveilleux, comme un cadeau du génie de qui? De là-bas, quoi.
De là-bas. Alors de là-bas, c'est on ne sait pas où, quoi. Hein.
Eh oui, là-bas, ça existe, hein, mais comment? Vous savez, c'est fantastique. Un jour, la Terre s'est détachée du Soleil, tout en feu, et des milliards d'années après, ça s'est refroidi, et il y a eu des amibes. Et tout ça finit par Beethoven, par Einstein, par la télévision. Comment expliquer ça, hein? C'est fantastique, personne ne peut l'expliquer, ça.
Léo Ferré, je vais vous poser une question qui va peut-être pas vous faire plaisir, pardonnez-moi à l'avance, hein, parce que je vais citer Jacques Brel, que, bon, on peut dire que vous le portez dans votre cœur. Est-ce que, comme Jacques Brel, vous diriez qu'il est plus difficile de vieillir que de mourir?
C'est une très grande connerie, ça. Voilà. C'est pas parce que c'est Jacques Brel qui a dit ça, hein. Ça, c'est un mot trouvé, cherché, pour pouvoir faire de l'effet. Hein. Ça m'est jamais arrivé, alors. Il est plus difficile de... De quoi?
De vieillir que de mourir. C'est une de ses chansons, d'ailleurs, de son dernier album.
Ah oui. Mais il aurait pu se faire sauter quand il avait 20 ans, hein.
Quand on vous écoute, Léo Ferré, vous êtes vraiment fidèle à l'idée que l'on se fait de vous. Une idée qui, du reste, plaisante, si ça peut vous rassurer, mais... Vous n'avez pas besoin d'être assuré, j'en suis sûr. On parle souvent de vos coups de gueule, de vos coups de cœur, de vos coups de spleen, de vos outrances, de vos souffrances, et rarement de vos émerveillements.
Je n'en parle à personne. Pour moi, vous savez, ce que ça peut être l'émerveillement, la brume là-bas, quand je suis seul, avec un éclair de gentillesse, de vrai savoir, fantastique. Je ne peux pas expliquer ça. Le silence, la musique du silence, même dans une ville, ça peut arriver. La nuit, tard, il peut y avoir le silence dans une ville, et c'est un silence qui a de la musique, et c'est ça la musique du silence.
Et vous dites que vous n'êtes pas poète?
Moi, je ne suis pas, je suis rien.
Avant de nous quitter, Léo Ferré, parmi tous les poètes dont nous avons parlé, il y en a un qui a manqué, un contemporain, qui était, je crois, un très bon ami à vous. C'était Jean-Roger Cossimon.
Ah ben oui, mais je l'ai mis, hein.
Ah, moi je ne l'ai pas mis, c'est pour ça.
Ah.
Eh oui, on n'en a pas parlé. Pas
ah
beaucoup.
Ben, c'est un grand poète, hein.
Oui.
Ah oui. Oui. C'était un comédien fantastique et un gentil garçon. Formidable type. C'est pour lui que j'ai fait cette émission-là. Avec Moscardo, il était malade, il allait mourir, et je voulais lui faire une surprise. Il m'avait donné des chansons, je les ai mises en musique, j'ai fait cette émission, j'aurais voulu la lui faire regarder, quoi. Et c'est une fille de la télévision, là, comment elle s'appelle, Marie-France Brière, qui a passé ça 9 mois après, 8 mois après. Pourquoi? On m'avait dit qu'elle allait passer tout de suite. Vous comprenez, des choses comme ça, ça ne peut pas exister, des choses comme ça. Si je la vois, je lui donne 2 gifles, je l'emmène là-bas dans le truc. Hein? Je vous dis, je donne plus sincère que mon copain m'a dit qu'elle me cherchait en ce moment pour me faire une émission, aller chanter chez elle. Voilà, j'ai tout. Vous comprenez?
Dernière question, la der. On a parlé des institutions, on a parlé de l'Église, on a parlé de l'Académie française, on a parlé des superpuissances, et on est cerné, vous l'avez dit. À tous ceux qui sont cernés, je sais pas, votre fils ou moi, en face de vous, qu'est-ce que vous avez envie de dire?
Eh bien, enlève-toi, prends tes pédales, va-t'en. Tu comprends? Hein? C'est parce qu'on se laisse avoir, quoi. Même la misère, on peut la détruire. Sur un mot. Vous savez quel mot? Amour.